Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais bon, hein?
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. À quoi pensez-vous quand vous regardez les Jeux Olympiques? Moi, je me demande souvent si les athlètes aiment encore ça. Je veux dire, est-ce que la compétition, les entraînements intensifs, le chronomètre, les médailles, la pression, est-ce que tout cela a supplanté le plaisir? Ou est-ce qu'il reste encore quelque part un peu de ce qu'ils ont ressenti la toute première fois qu'ils ont pratiqué leur sport? Je vous propose ce matin que nous parlions de la nage. Et la première chose qui m'a sidérée en préparant cette émission, c'est d'apprendre que beaucoup de nageurs et nageuses professionnelles ne nageaient plus après avoir arrêté la compétition. Comme si ça n'avait plus de sens de nager sans faire la course. Comme s'il était vain de nager pour rien. Alors posons-nous une question toute bête, mais une question immense. Ça fait quoi de nager? Que ressent-on? Que devient le corps quand il se déplace dans l'eau et que traverse l'esprit? Est-ce une forme de méditation? L'horizontalité permet-elle de se laisser aller? La natation est le sport le plus pratiqué en France après la marche. Ça mérite bien de percer les secrets de la brasse, du crawl, du papillon. C'est parti, nager, le grand bain des sensations.
Dorothée Barba sur France Inter.
Avec trois invités en direct, l'un est avec moi en studio, les deux autres sont au bord de l'eau, alors honneur au studio. Bonjour Gilles Bornet.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter, vous êtes écrivain et nageur, nageur et écrivain, auteur d'un livre intitulé « Le nageur et ses démons », édition François Bourin. De quand datent vos dernières longueurs?
Mes dernières longueurs datent de lundi soir.
Bonne séance? Quel chrono?
Séance classique, j'ai nagé 4100 mètres en 1h15.
Vous êtes content de vous?
Ni content ni pas content, c'est ma séance habituelle.
Voilà, la performance et la natation sont pour vous indissociables, on aura le temps de le détailler. Ma deuxième invitée est une grande championne française, à distance, parce qu'elle s'entraîne ces jours-ci dans un lac des Pyrénées. Bonjour à vous, Malia Metella.
Bonjour.
Merci beaucoup de participer à cette émission. Alors, vous avez contribué à l'essor de la natation tricolore. Médaille d'argent en 50 mètres nage libre au JO d'Athènes de 2004. Triple championne d'Europe, vice-championne du monde. Vous avez mis un terme à votre carrière en 2009, Malia Metella. Vous n'avez pas nagé pendant 11 ans et vous reprenez à présent à la faveur d'un défi impressionnant. Vous allez traverser le lac Titicaca au Pérou. Vous nous direz bien sûr tout à l'heure en quoi consiste ce défi. Et là, vous participez à une émission de radio en direct depuis un radeau, c'est ça?
Oui, exactement.
Où êtes-vous, Malia Metella?
Je suis dans les Pyrénées-Orientales, je suis sur le lac de Matmal et on s'entraîne actuellement, c'est notre dernier gros stage, enfin l'avant-dernier gros stage, tous les trois, parce qu'on est trois pour faire ce défi, Théo Curin et Mathieu Vidvoot, et je suis sur un radeau, le radeau qui a été conçu écologiquement, parce que c'est fait par avec que des matériaux recyclés, et on est en train de se préparer justement, à nous préparer ce défi, cette traversée du lac Titicaca, qu'on va faire, c'est une traversée de 122 km à peu près, et qu'on doit faire en 10 jours.
Bon, la radio, depuis un radeau, j'avais jamais tenté, mais on va voir si ça fonctionne, on a jusqu'à 10 heures pour le constater. Ma troisième invitée est en direct de Nice. Bonjour à vous Chantal Thomas.
Bonjour Dorothée Barba.
Bienvenue, je remercie au passage mes camarades de France Bleu Azur pour la liaison en duplex. Vous êtes dans leur studio ce matin. Chantal Thomas, écrivaine, dramaturge, scénariste, membre de l'Académie française depuis cette année, immortelle donc. Vous avez été élue en janvier dans le fauteuil de Jean d'Ormesson. Votre livre le plus récent, De sable et de neige, est publié au Mercure de France. Et vous avez écrit en 2017, Chantal Thomas, un livre qui met des mots précieux sur notre sujet du jour. Ce livre s'appelle « Souvenirs de la marée basse » aux éditions du Seuil. Est-ce que vous avez nagé ce matin ?
J'ai nagé hier soir. Ce matin, c'était un peu bref, mais j'aime bien que le temps soit ouvert. Donc je nagerai juste après.
Comment était-ce ? L'émission. Comment était-ce hier soir ?
C'était délicieux. C'était l'eau était, c'était beaucoup réchauffé. Et elle était un peu prise dans les couleurs du couchant, donc entre des mauves bleutées. Et elle avait une texture à la fois, je dirais, soyeuse. Voilà.
Vous nagez en longeant la rive ou vous partez au large quand vous êtes dans la Méditerranée?
Je fais les deux. De même que je me tiens pas une seule nage, je varie, je varie les plaisirs. Voilà.
Chers auditeurs et auditrices, que vous soyez plutôt piscine municipale ou nage en eau vive, que vous aimiez le crawl, la brasse, le papillon ou même le petit chien, racontez-nous votre rapport à la nage. Vous connaissez le chemin, c'est à la page de L'été comme jamais sur franceinter.fr, au téléphone 01 44 45 24 7000 ou en nous laissant une note vocale sur l'application France Inter. On est bien, c'est l'été comme jamais.
Tu penses que les femmes m'adorent? Tu penses que mon nez n'est pas trop grand? Tu penses que je suis intelligent? Tu penses que je pense? Et moi je veux nager encore une fois avec toi. James Bond, tu penses que je peux être une star? Tu penses que je suis assez beau? Tu penses que j'ai une tête de veau? Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Oh. Tu penses que je suis pas trop petit? Tu penses que je peux être heureux? Tu penses que je vais mourir? Tu penses que je dis des conneries? Et moi je veux nager. Je fais ce que je veux. J'adore Hollywood. J'aime l'été à Saint-Tropez. Oh. Et moi je veux nager encore une fois avec toi.
Il dit souvent qu'il allait à l'école pour apprendre à nager, pas pour apprendre à compter. C'était Arnaud, bien sûr, sur France Inter.
France Inter, l'été comme jamais.
On allonge, écarte, menton. Allonge, écarte, menton. Allonge, écarte, menton. Excusez-moi, madame, vous avez un petit peu trop cheveux qui dépasse du bonnet.
Ouais.
Merci. On allonge devant. On écarte sur les côtés. On ramène les mains jointes comme une prière à un dieu de votre choix. On allonge devant. On écarte sur les côtés. C'est bien, fluidité des mouvements. C'est courageux d'apprendre à nager à votre âge, hein, mais c'est pas gagné.
Florence Loirecaille dans L'effet aquatique, un film de Solveig Anspach. Nous parlons de nage ou de natation ce matin. Tenez, quelle différence entre les deux? Avec Malia Metella, vice-championne olympique, avec Gilles Bornet, auteur d'un livre intitulé Le nageur et ses démons, et avec la romancière Chantal Thomas. Alors Chantal Thomas, nage ou natation?
Moi je suis plutôt du côté nage, c'est-à-dire du côté loisir et vagabondage.
Et la natation, que vous inspire ce mot?
La natation, je pense que c'est plus sportif et compétitif et peut-être plus ancré facilement dans une piscine.
Vous n'avez rien, vous n'êtes pas allergique pour autant à la natation?
Oh bah pas du tout.
Ou à la piscine municipale.
Rien qui touche à l'eau, rien.
Ah, jamais allergique à l'eau. Ça devrait également faire réagir Gilles Bornet. Nage ou natation?
Natation. Mm-hmm. Natation, la nage. J'ai rien contre, hein. J'ai rien contre, mais je ne.
Vous avez nagé, j'espère.
Oui, oui. Mais je m'ennuie si je ne m'entraîne pas. C'est-à-dire que, voilà. Il faut
donc, nager sans se chronométrer, pour vous, n'a aucun intérêt?
Si, ça peut avoir un intérêt pour plein de gens. Et d'ailleurs, ça en a. Mais c'est très. Oui, c'est
mais
très...
pour vous?
Pour moi, je m'ennuie. Oui, je m'ennuie. Ouais. S'il n'y a pas un chronomètre, s'il n'y a pas un programme, s'il n'y a pas un sens, s'il n'y a pas un objectif. Il n'y a pas un sens énorme, oui.
Mais alors, quand vous faites des longueurs, vous ne pensez qu'à ça, au chronomètre?
Oui, mais c'est pas une pensée qui m'accable. Hein. C'est au contraire, c'est une pensée qui me meut. voilà, je fais. Malia connaît ça par cœur. On fait des séries, on a des temps. On fait des séries où on accélère dans la série. On fait des séries au contraire où on essaye de faire le même temps dans chaque distance de 100 mètres, de 200 mètres. Il y a des temps de repos. Il y a voilà. Ce qui est intéressant, c'est de le faire à mon âge. Parce que vous n'avez pas dit mon âge, mais...
Alors dites-le, s'il vous plaît, je ne me permettrai pas.
Non, bah, j'ai plus de 60 ans. Mm-hmm. Donc j'essaye de continuer à m'entraîner comme je le faisais il y a plus de 50 ans.
Malia Metella, vous faites-vous une différence entre la nage et la natation?
Oui. La natation, ben, c'est comme il disait, c'est oui, on a un objectif, c'est que on doit faire des temps, on a une série, on doit faire des temps, on a un départ et tout. Ben, la nage, moi je dirais, c'est ce que je ferai à l'été, ah, en vacances, je nage, je nage un peu, j'explore les poissons, je vais voir les poissons ou. Et est-ce que la nage en eau vive, on pourrait dire nage en eau vive et pas natation, et dire natation qu'on est dans un bassin? Ouais. Peut-être.
Peut-être. On peut se chronométrer, ouais, ceci dit, en eau libre également.
C'est plus difficile, on fait pas de série, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, même les nageurs d'eau libre, les bons nageurs d'eau libre, ils s'entraînent en piscine à 90%.
Exactement. Ils font de la natation en piscine et ils font de la nage en eau libre, même s'ils sont en compétition, c'est de la nage, ils disent pas natation en nature, enfin ils disent en nature, mais c'est toujours nage à nage, ils parlent de nage, ils disent pas natation en lac ou natation en rivière, c'est nage.
Malia Metella, vous avez mis fin à votre carrière de nageuse en 2009 et ensuite je crois que vous n'avez pas nagé du tout pendant 11 ans. Que s'est-il passé à l'époque? Pourquoi avoir décidé de ne pas mettre un pied à la piscine?
Il y a eu un blackout. Je suis arrivée au dégoût de mon sport.
Le dégoût?
Ouais, complètement. Je ne supportais plus l'odeur du chlore. Je ne supportais plus le fait de, quand tu rentres dans une piscine, la première chose que tu sens, c'est le chlore. Cheveux mouillés tout le temps. Je m'entraînais beaucoup, hein. J'étais 30 à 40 heures dans l'eau par semaine. Je m'entraînais 11 fois par semaine et oui, c'était beaucoup et je ne supportais plus, j'en avais plus envie d'enfiler le maillot, aller à l'entraînement et j'avais plus d'objectifs. Je dirais presque, oui, j'ai réussi à avoir, j'étais allée au-delà de mes attentes, j'ai réussi à la médaille olympique, médaille mondiale, multimédaille européenne et tout, donc. Qu'est-ce qui me restait à faire? Je sais pas, est-ce qu'il fallait chercher un titre olympique? Je n'étais pas arrivée à ce point parce que j'étais passée par des périodes où je m'étais blessée gravement. J'ai dû me battre pour revenir à mon meilleur niveau et c'est le moment où en 2009, ben c'était pas, c'est ça, c'est pas arrivé parce que je suis arrivée à un dégoût, complètement à un dégoût. Je ne supportais plus, je ne pouvais même pas aller dans les gradins, aller encourager mon frère.
Votre frère, Mehdi, était là, nageur, effectivement, aussi.
Ouais. Donc, je préfère rester chez moi, regarder à la télé ses courses, l'encourager, qu'y aller à la piscine.
Et alors, quelle a été votre réaction quand Théo Curin, qui est un nageur paralympique, vous a contacté pour ce défi Titicaca, traverser le lac Titicaca à la nage, vous qui ne nagiez plus, Maliam était là.
J'ai rigolé. J'ai rigolé parce que, en fait, mais comment il a fait pour penser à moi, surtout que moi qui arrivais à un dégoût, je ne voulais même pas aller à la piscine ou même, j'arrivais même pas à la mer, hein, en vacances, hein. Je mettais pas le pied dedans et je me dis, mais pourquoi t'as pensé à moi? Je suis sprinteuse en plus, je fais que du 50 et du 100 mètres. C'est mon temps maxi, c'était 53 à 49 et là on me demande de faire 122 km en 10 jours dans une eau à 10 degrés à 3800 mètres d'altitude. Oui, forcément j'ai rigolé mais il y avait plein de choses à côté qui font que j'ai accepté parce que c'était plus de la natation justement, c'était de la nage en eau vive et il y avait plein de petits détails qui faisaient que je pouvais dire oui. On se bat contre le côté en protection de l'écologie. On se bat contre pour la protection des eaux. Notre ado est 100% écolo. Il était.
Oui, parce qu'il faut préciser que vous allez tracter. Vous êtes autosuffisant. Hein, vous allez tracter un radeau qui pèse 400 kilos. Bon, voilà, rien du
tout,
quoi.
Exactement. Ouais, sur lequel on va dormir et manger. Et je me suis dit, c'est pas une aventure qu'on va me reproposer. J'ai bientôt 40 ans et je me dis, je ne fais pas deux fois dans ma vie ce genre de défi. Et on est trois et en plus avec toutes les valeurs qu'on peut montrer et dire voilà on est trois, il y a deux jeunes hommes qui ont la vingtaine, moi qui ai bientôt 40 ans, deux générations différentes, Théo qui est une personne en situation de handicap qui prouve qu'il est capable de faire plein de choses, voilà on est il y a plein de points qui font que je pouvais dire oui, donc en une heure et demie je lui ai dit oui.
Et le plaisir de la nage, est-ce qu'il est revenu? Maliam était là.
Alors j'ai d'abord appelé mon ancien entraîneur, je lui ai dit bon voilà, il y a Théo qui me propose ça, il me dit ça va être difficile Maliam, tu vas devoir t'entraîner dur. Je sais, je me prépare mentalement pour. Il me restait 2 mois avant de commencer les entraînements et il fallait que je retrouve le plaisir. Il m'a dit t'inquiète pas, on va commencer doucement pour que tu retrouves du plaisir à l'entraînement. J'ai mis 1 mois et demi avant de retrouver du plaisir. J'ai commencé la mi-septembre et c'est en fin octobre que j'ai retrouvé du plaisir parce que ma tête, elle était prête. Mais mes bras, ils n'étaient pas encore prêts. Il fallait que je reprenne toute la condition physique, que je retrouve toutes mes sensations de glisse que j'avais perdues. Et ça met pas mal de temps avant de pouvoir le retrouver. Et il faut se préparer forcément mentalement à se dire, bon, il faut que j'aille à l'entraînement tous les jours, presque tous les jours, pour retrouver cette sensation de glisse.
Voilà qui doit faire réagir Chantal Thomas. Je rappelle que vous êtes romancière et nageuse devant l'éternel. Que vous inspire ce dégoût de la nage que raconte Maliam Etela, Chantal Thomas?
C'est quelque chose que je n'ai pas ressenti, mais je comprends très bien aussi la manière dont cette proposition de traverser le lac Titicaca a totalement changé ses désirs. Parce qu'il y a un défi et parce qu'en effet c'est aussi un défi qui repose sur le plaisir retrouvé. Parce que je crois vraiment que la sensation de glisse et la sensation d'allègement est intrinsèque aux joies de la nage, et c'est pourquoi tellement de gens, hier je prenais le train de Monaco à Nice, et donc on suit le bord de mer, et c'était très beau de voir par la vitre tellement de gens, même tard, dans l'eau, et tellement heureux. Il y a un sentiment de bien-être et d'euphorie, et une gaieté qui émane de quelqu'un qui sort de l'eau. Ça, c'est très visible,
je trouve. C'est incontestable, la gaieté et l'allègement.
L'envie de rire. Ça, c'est une chose merveilleuse, je trouve, quand les enfants s'aspergent juste pour rire. Mais moi, j'ai grandi au bord de l'eau, et je pense que le rire et le sentiment de souplesse et le sentiment que mon corps et du côté du bonheur est née là.
Je suis enchantée par un message d'auditeur qui vient de me parvenir, mais qui mérite au préalable une petite traduction. Gilles Burnet, qu'est-ce qu'un pool boy ?
Un pool boy, c'est une bouée qu'on se met entre les jambes pour travailler spécifiquement les bras.
Et que sont des plaquettes ?
Des plaquettes, ce qu'on appelle aussi les paddles, c'est ce qu'on met, c'est des plaquettes qu'on se met au bout des mains pour travailler davantage ou la technique ou la force.
Donc
sur
des
les
doigts
bras.
Palmés, c'est ça ?
Non, c'est pas des doigts palmés, c'est vraiment rigide, c'est en plastique
pour
ou je sais pas quoi.
Pour avoir plus de prise dans l'eau.
Pour avoir prise, voilà, on peut dire ça.
Alors voici ce que nous écrit Jean-Louis. Un jour, alors que je nageais en crawl en endurance depuis déjà un bon moment avec mon pool boy et mes plaquettes, j'ai eu un flash saisissant, l'envie d'ouvrir la bouche en grand et de prendre une grande inspiration dans l'eau, comme un poisson, fugace et incroyable sensation jamais retrouvée. Jean-Louis s'est transformé en poisson, Gilles Burnet. Avez-vous déjà ressenti un truc pareil ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Et tant mieux pour Jean-Louis. Mais non, quand je nage, j'essaie de me sentir le plus nageur possible. J'essaie de contrôler tous mes mouvements, de faire que chaque mouvement soit un bon mouvement. De toute manière, le chrono vous raconte très vite si votre mouvement était bon ou si vos mouvements ont été bons ou pas. Donc voilà, j'essaie que d'enlever toutes les petites imperfections des mouvements. Je compte mes mouvements parfois, pas toujours, mais parfois, par 25 mètres, 14 mouvements, suivant la vitesse à laquelle vous allez, entre 12 et 16 ou 17 mouvements.
Vous parlez dans votre livre de l'élégance de la nage. À quoi cela tient-il qu'une brasse, un crawl, un papillon, un dos crawlé soit élégant, Gilles Burnet ?
Alors la brasse, déjà, ça ne peut pas être élégant. Donc
non, attendez, vous rigolez ? La brasse n'est jamais élégante.
Je rigole rarement. On parle de natation.
Surtout pas la natation. C'est un peu un puriste, hein, disons-le.
Oui, alors la brasse, Malia va pas me contredire, c'est une nage un peu à part, même si les brasseurs sont devenus aujourd'hui des... Avant, je l'explique dans le livre, on mettait en brasse ceux qui arrivaient à la piscine avec les pieds, vous savez, en canard, et on savait pas ce qu'on allait en faire, on en faisait des brasseurs. Bon, maintenant, les brasseurs sont excellents, ils sont bons dans toutes les nages, mais ça reste quand même une nage à part.
Alors, dites-moi l'élégance du crawl.
Alors, l'élégance du crawl. Toute la problématique du crawl et d'ailleurs des autres nages, c'est de rendre solide un appui liquide. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous devez nager dans l'eau.
C'est l'équation impossible.
Voilà. Mm. Vous essayez de la rendre possible. C'est-à-dire que si vous pouvez tourner les bras vite, c'est mauvais signe. C'est-à-dire que vous nagez dans de l'eau, entre guillemets, qui serait friable. Mm-hmm. Et donc, il n'y a pas de prise, il n'y a pas d'appui, vous n'allez pas avancer. C'est-à-dire que si vous arrivez à tourner les bras vite, c'est pas bon signe. Voilà. Il va falloir donc déjà rendre cette eau solide. Alors là, il y a beaucoup d'exercices à faire avant d'y arriver. Mmh. Et puis, il y a aussi autre chose qui rend la nage élégante, c'est que vous nagiez, que vous donniez l'impression, au moins à l'œil, de nager dans une descente. C'est-à-dire que vous allez positionner votre corps, le centre de gravité de votre corps, de manière à ce que tous les mouvements que vous commettez vous fassent avancer et non pas vous fassent flotter. C'est-à-dire que quand je vais à la piscine, dans le public, ça m'arrive, je vois des gens, enfin à peu près tous d'ailleurs, dont la propulsion ne sert pas en fait à se propulser, elle sert à flotter.
Mais s'ils prennent du plaisir, tant mieux pour eux, non ?
Oui, bien sûr. Ah non, mais après c'est autre chose. Mais vous me posez une question sur l'élégance. Par contre, c'est pas élégant. Il tape dans l'eau. Vous voyez, moi parfois j'en ai peur
il
pour la piscine.
Dans l'eau.
Vous voyez,
c'est joliment dit.
Voilà. Donc
une auditrice nous a laissé une note vocale sur l'application France Inter. On l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Émilie, je nage depuis l'âge de 6 ans, j'en ai 40 et je ne m'en lasse pas. C'est vrai que ça procure des sensations extraordinaires de nager. Je pratique la course à pied aussi, le vélo, j'adore ça. Mais c'est très particulier de nager dans l'eau. En fait, on est dans un élément, le corps est dans cet élément, il est porté, on est concentré sur la respiration aussi. Il y a quelque chose de très particulier, on parle de sensations proches de la méditation souvent, et c'est vraiment ça. À un moment donné, on se vide de beaucoup de choses, que ce soit une séance d'un quart d'heure ou une séance de 2 heures, dans la mer ou à la piscine, et c'est vraiment ça qui est extraordinaire.
Voilà, le mot méditation a été prononcé, Chantal Thomas. Est-ce que ce parallèle vous intéresse ?
Oui, ça m'intéresse et sans contester les choix de Gilles Burnet, je pense que la brasse
est élégante. J'étais sûre que vous diriez
surtout,
ça.
Elle implique par le mouvement des bras un geste d'ouverture et d'ouverture de tout le corps et d'ouverture à l'événement de la sensation. Et en ce sens, la brasse, je crois, est du côté de la méditation, ah. Et du côté d'un rapport réfléchi, intériorisé, au contact de la peau, du visage, à cette fraîcheur extraordinaire. Quand on plonge la tête dans l'eau, on a le sentiment de renaître vraiment avec l'eau. Voilà.
Est-ce que vous diriez est-ce que vous diriez, Chantal Thomas, qu'on a tous et toutes une façon de nager comme on a une démarche, une façon de marcher?
Oui, je pense. Mmh. En tout cas, personnellement, je sais pas marcher très droit, je n'aime pas tellement aller dans une direction, je m'arrête trop, ça énerve d'ailleurs mon entourage. Et quand je nage, c'est comme ça, il y a des jours où je vais vraiment vers une bouée, d'autres où je longe les rochers, et je sais pas tellement à l'avance ce que je vais faire.
Les messages des auditeurs et auditrices nous parviennent nombreux. Valérie nous écrit que nager, c'est vivre plus et mieux. C'est s'envelopper des saisons, c'est glisser dans la matrice liquide du désir.
L'été comme jamais. Dorothée Barba sur France Inter.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. 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 Je te sens au loin, chasser mon souvenir. Palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais, dans un miroir sans teint, d'où je te regarde, t'en sortir à merveille, épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse.
C'était Clara Luciani sur France Inter. Le reste, c'est le tube de l'été, le morceau de l'été à écouter, notamment dans la piscine. Nous parlons de natation ou de nage. Ça dépend des points de vue. Ce matin, dans l'été comme jamais, avec Malia Metella, vice-championne olympique, avec l'écrivaine Chantal Thomas et avec Gilles Bornet, auteur de Le nageur et ses démons. Est-ce que vous écoutez, Malia Metella, de la musique en nageant?
Oui, mm-hmm. Et ben justement, je me suis procuré un MP3 pour pouvoir faire les entraînements, là en ce moment, sur le lac, avec de la musique dans les oreilles, et ça aide beaucoup.
Alors
pas
comment...
à la piscine, pas à l'entraînement. Ah. Mais sur le lac, oui, puisqu'on a 12 km à faire par jour, donc je me dis que un peu de musique, ça change. Et comme je nage toute seule à tracter le radeau de 400 kilos, je me suis dit que ça va me faire du bien de pouvoir et ça passe plus facilement une heure de nage avec de la musique dans les oreilles.
Alors je rappelle que vous êtes au lac Matmal dans les Pyrénées-Orientales pour préparer ce défi Titicaca qui aura lieu en novembre prochain. Malia Metella, vous allez traverser le lac à Troyes en tractant votre radeau sur lequel vous dormirez et mangerez. Méditation, disait tout à l'heure une auditrice. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La nage est-elle une forme de méditation?
Oui, ça peut être méditation, mais moi je la comparais plus sur les astronautes.
Ah.
On en a pesanteur en fait sur l'eau. Et moi je compare plus au côté des astronautes parce que c'est un des sports où on se blesse pas parce que quand tu la pratiques, t'es dans une piscine, t'es en apesanteur, il n'y a pas de choc. On est tranquille, on est avec notre élément, l'eau, et on est complètement en apesanteur. Et ce qui fait, nous, en tant que, quand je nageais, en tant que sportif de haut niveau, je sais pas si Gilles, lui, il le fait aussi, c'est que on devait courir une fois dans la semaine parce qu'on devait fixer le fer sur nos os, parce qu'on était tout le temps en apesanteur et que ça améliorait, ça nous permettait de fixer un peu plus le fer sur nos os. Et donc, on courait une fois par semaine et c'est ce qui a été mis en pratique, que ce soit dans la plupart des grands clubs, pour leurs nageurs.
La nage en apesanteur, Gilles Bornet, ça rejoint ce que nous écrit une auditrice, Annick, écrit ceci, peut-être que nager, c'est comme voler. Je rêve souvent que je suis dans le ciel et que je nage la brasse pour avancer, alors que ma nage préférée, dit-elle, c'est le dos crawlé. Voilà, voler comme un oiseau ou être en apesanteur comme Thomas Pesquet.
Je serais assez d'accord. Plutôt que de méditation, je parlerai également aussi d'apesanteur. Évidemment, c'est très présent quand on nage. C'est ce qui rend la natation unique. C'est ce qui la rend, ce que disait Malia, non traumatisante. C'est-à-dire que lorsque vous sortez d'un entraînement de natation, même si c'était un entraînement assez long, d'une heure et demie, deux heures, même plus, vous pouvez ne pas être fatigué, en tout cas pas ressentir une fatigue, pas ressentir de douleur, et au contraire, même assez souvent, je sors de l'entraînement en meilleure forme que j'y rentre. Je peux y rentrer avec mal à la tête et sortir sans mal à la tête. Et en plus, il y a les fameuses endorphines.
Mm-hmm.
Donc, vous sortez, j'allais dire, dopé dans le bon sens du terme, en ayant envie de renager, d'écrire plein de livres et de faire plein de choses.
Nicolas nous parle de la sensation qu'il a ressentie lorsqu'après plus de 8 mois sans nage, en raison de la fermeture des piscines municipales, il a enfin pu plonger et retrouver, dit-il, immédiatement ses sensations intact. Quel plaisir de se sentir glisser de nouveau, écrit-il. On a aussi une auditrice qui s'appelle Jeanne, elle a 55 ans et qui ne sait malheureusement pas nager, écrit-elle. Les sensations semblent être extrêmement agréables. Je ne sais pas si j'ai la phobie de l'eau, dit Jeanne, mais réellement une appréhension. Pensez-vous qu'il est encore temps d'apprendre, Gilles Bornet?
Alors elle va pouvoir apprendre, mais elle apprendra moins que si elle avait commencé à 8 ans. La natation, on peut l'apprendre à tout âge, ça dépend vraiment de ses qualités. Il faut être souple, il faut flotter. Si elle a fait d'autres sports, bah c'est mieux. Il faut plutôt avoir un organisme endurant. Mais évidemment, alors elle pourra apprendre. Elle nagera jamais aussi bien qu'évidemment si elle avait commencé.
Mais cette peur dont elle parle, elle peut la vaincre, même à 55 ans, puisque c'est sa
bien
crainte.
Sûr, elle va la vaincre. Ça va dépendre avec qui elle apprend. Si elle apprend avec quelqu'un qui sait la mettre en confiance.
Un peu de bienveillance.
Oui, de la bienveillance et puis de la pédagogie. C'est beaucoup de pédagogie, l'apprentissage de la natation.
Alors tenez, vous parlez de pédagogie. Ça me rappelle un passage savoureux dans le roman de Chantal Thomas, Souvenir de la marée basse. Chantal Thomas, quand votre mère vous apprenait le crawl, c'était quelque chose?
Oui, mais c'est-à-dire le crawl, c'était son lieu et la nage, c'était sa manière à elle de s'évader d'une vie de femme au foyer. Et je, sans comprendre vraiment, je sentais obscurément que c'était son geste de liberté. Et quand j'ai écrit Souvenir de la marée basse, je l'ai vraiment écrit vers elle, pour elle, et dans le sillage de ce geste d'indépendance qu'elle avait, dont elle a tellement joui.
Le crawl qui est, disait-elle, une façon de ramper à la surface de l'eau, un merveilleux ramper. Est-ce qu'on oublie? On dit souvent que le vélo ne s'oublie pas, Chantal Thomas. Est-ce qu'on peut oublier les gestes pour nager?
C'est la formule. Je ne pense pas.
La formule est de votre mère d'ailleurs, les gestes pour nager.
Oui, non, je ne pense pas. Je pense que ça devient un réflexe et ça fait partie. L'eau, nager, est un prolongement de notre être. Et c'est aussi un apprentissage de toutes les sensations qui nous entourent. C'est-à-dire, c'est vrai, on nage avec les oiseaux, on nage avec les poissons, mais aussi avec les oiseaux. Et aussi, dans les parfums, il y a quelque chose de toujours bouleversant quand on s'approche de l'océan, qui est qu'on, d'abord, on entend les vagues et on respire l'iode avant de voir même. Et on est comme enrobé et submergé avant d'entrer dans l'eau. Et je pense que c'est le monde entier qui nous apparaît comme un habitacle désirable.
Et ce léger mouvement torsadé du poignet qu'avait votre mère lorsqu'elle nageait le crawl, vous le retrouviez oui. ailleurs, dans la façon qu'elle avait notamment d'ajuster son chapeau.
Oui, c'était... Vous savez, les êtres qu'on a perdus, ils surnagent en nous, si je puis dire, par des très légers détails. Un certain sourire, une intonation. Elle, c'était cette légère torsion de la main, oui.
Maliam était là, vous qui avez arrêté de nager pendant 11 ans après votre carrière de nageuse professionnelle, c'est à vous qu'il faut poser la question. Est-ce que la nage, c'est comme le vélo? Ça ne s'oublie pas?
Ah, ça ne s'oublie pas. Mmh. Non, ça ne s'oublie pas. On le garde toujours en nous. Certes, que ce soit 11 ans, 20 ans, on n'a plus nagé, on n'a plus les mêmes sensations, justement, parce que la natation, c'est important de toujours garder un contact avec l'eau ou la nage. Quand on compare la natation et la nage, il faut toujours garder un contact avec l'eau, mais non, ça, on ne peut pas l'oublier. Elle reste toujours en nous.
Un auditeur nous a appelé au standard de France Inter depuis la Savoie. Bonjour à vous, Hervé.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Êtes-vous nageur?
Oui, j'adore nager l'été.
Qu'est-ce qui vous plaît? Quelles sensations ressentez-vous?
Pour dire, moi, je fais un peu la promotion de la nage promenade. Mm-hmm. C'est-à-dire se promener, observer la nature, avoir un objectif quand on nage, aller d'une plage à l'autre, observer, passer entre un îlot, entre des îlots, et puis observer la nature, enlever ses lunettes de natation, s'arrêter avec un sac bouée. Si on est plusieurs, on peut s'arrêter, discuter, c'est aussi pour la sécurité. Mais c'est vraiment comme une sortie en montagne, on observe la nature, on a aussi les sensations du corps, on est bien dans l'eau, c'est pas une activité agressive, c'est un bien-être. Et puis on est sensible à la nature, à observer des paysages, on va à des endroits auxquels on ne peut pas accéder par la route, par les chemins, on observe aussi. Et partager, quand on est plusieurs à le faire, c'est vraiment un moment particulier.
Et vous parcourez beaucoup de kilomètres, Hervé, quand vous nagez en vous promenant?
Oui, quand je me balade, bon, je peux faire 2 km, 3 km, mais sans être très sportif, c'est accessible à tout le monde, parce qu'on peut être fainéant quand on nage, je veux dire. On peut être sportif, moi j'aime bien aussi parfois les sensations quand le corps répond à la demande, mais c'est ouvert à tout le monde, c'est une promenade, on peut aller tout doucement, on peut aller regarder, voilà, c'est vraiment une promenade et partager et observer la nature, les éclairages du matin, du soir, c'est vraiment une sortie d'observation et puis de bien-être aussi.
Merci beaucoup pour ce témoignage et très bonne journée à vous dans l'eau, Hervé. Merci. Les auditeurs et auditrices décidément sont très prolixes sur ce sujet. Nager me fait quitter le temps, nous écrit Cécile. Ça me reconnecte avec moi-même, ça m'apaise et me rend finalement sereine. Après chaque séance, j'embrasse la vie. Ah, cette caresse de l'eau, dit-elle, ce silence. Jean-Marc, quant à lui, nous raconte qu'il lui arrive souvent la nuit de rêver qu'il nage. Et ça lui procure une sensation de bien-être. J'imagine que ça vous arrive aussi, Gilles Bornet.
Alors, je rêve très
de
souvent
rêver
que je nage.
De nage. Ouais.
Je rêve que j'entraîne, parce que j'ai entraîné aussi. Mm-hmm. Donc ça, c'est vrai, c'est très présent.
Est-ce que vous vous chronométrez dans vos rêves? Vous
êtes
un très
précis.
Adepte de
bien
performance.
Bien sûr, je fais des compétitions, j'ai des temps très précis, j'ai peur comme j'avais peur quand je faisais des compétitions, etc. Bien sûr, non, ça reste, c'est quelque chose qui...
Et un mouvement raté de dos crawlé, c'est un désastre, même dans un rêve.
J'en rate pas. Ah, non, je me laisse pas aller quand même à ce point-là. Mais non, la perfection, mais en tout cas.
La tentative de.
Y a pas de raison de le rater.
Maliam était là. Y a-t-il des brasses, des crawls, des papillons dans vos rêves?
Non.
Non?
Non. C'est très très rare que je rêve de natation.
Alors, ça,
même quand
fou.
Je nageais, je crois que je ne rêvais pas de natation.
Ouais. Vous entendez ce que vous dites? Vous dites même quand je nageais. Là, vous êtes en train de vous préparer dans un lac des Pyrénées.
Oui,
vous nagez tous les jours, Maliam était là. C'est pas de la compétition, mais vous nagez.
Oui, mais non, pour moi, comme je dis souvent, c'est ma deuxième vie, ce que je vis en ce moment. Et dans ma première vie, c'était professionnel, c'était, voilà. Et pour moi, c'était à ce moment-là, je parlais de ce moment-là,
quand je
faisais du haut niveau. Je crois que ça m'est très, très rarement arrivé de rêver de natation, de rêver de compétition. Même qu'en sport d'entraînement, on déjeune ou on dîne entre nageurs, on parle pas natation.
Bah peut-être qu'après la traversée du lac Titicaca à Troyes avec votre gros radeau, vous rêverez de nage. Chantal Thomas, vous faites des parallèles fréquents dans vos livres entre la nage et le plaisir sexuel. Il faut parler de ça. En quoi la nage est-elle pour vous une activité érotique ?
Justement, parce qu'elle est du côté de l'abandon, et comme l'a dit plusieurs interlocuteurs, du côté de la glisse. Donc, dans un rapport jouissif de la continuité de notre corps. Mmh. Elle est une femme l'a dit tout à l'heure, une auditrice, c'est une caresse.
Oui.
Et dans les rêves, justement, où l'on nage, très souvent, je pense, en tout cas pour moi, je nage pas seule. Je nage à ce moment-là, c'est des souvenirs liés à des amants. Et certains reviennent dans mes rêves, et quelquefois, même si j'ai jamais en réalité nagé avec eux, ils reviennent en rêve, ils sont en rêve avec moi, parce que je pense que le rêve a une vérité aussi forte, bien sûr, que le jour, que ce qui nous arrive de jour. Donc, la nage, c'est ce qui fait peut-être le petit pont entre la nuit et le jour.
Le petit pont. Il y a aussi du football dans cette histoire. Vous avez été l'élève de Roland Barthes, Chantal Thomas. Il a dirigé votre thèse de doctorat consacrée au marquis de Sade. Excellente raison de le citer ce matin. Le dernier état érotique, écrit Barthes, c'est de nager. Dans les matières corporelles, les délices, le sentiment profond de la luxure.
Oui, alors Barthes citait Sade, qui lui-même détestait la mer.
Ah. Et pourquoi diable ?
Sade a dit j'ai une profonde détestation de la mer. Donc c'était quelque chose de cette époque. Au XVIIIe siècle, la mer était ressentie et regardée comme une menace effroyable et comme le lieu de toutes les perditions possibles.
Vous pardonnez Sade de sa détestation de la mer, Chantal Thomas ?
C'est difficile, ça m'est très difficile, mais je me fais une raison.
Il y a un mot que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est le marché flotté. Qu'est-ce que le marché flotté ?
Oui, c'est les enfants ou les personnes qui justement ne savent pas nager, j'ai vu ça petite, mais je vois quelquefois ça à la campagne ou dans des lacs, des gens qui se promènent et puis qui font vaguement le geste de la brasse. Donc en fait, c'est un marché flotté comme il y a chanter, parler. J'aime beaucoup ça. J'ai l'impression que j'ai appris à nager réellement comme ça. J'ai d'abord fait semblant de savoir nager, et puis ensuite, j'ai nagé vraiment.
Apprendre à nager, évidemment, cette émission aurait pu durer toute la journée, mais apprendre à nager, c'est souvent un souvenir un peu douloureux pour chacun d'entre nous. Gilles Bornet, quel souvenir de votre apprentissage de la nage ? Vous dites dans votre livre que c'est héroïque, bien plus que d'apprendre à marcher, d'apprendre à nager.
Parce que vous n'êtes pas déjà dans votre élément, vous avez quand même des problèmes avec la respiration, vous avez de l'eau qui vous rentre dans le nez, vous avez peur. Moi, j'ai pas un bon souvenir de mes premières brasses.
Il a fallu dépasser cela.
Oui, j'étais pas du tout fait pour ça. J'ai laborieusement appris à nager plutôt assez tard. J'ai commencé la compétition à 11 ans et demi, ce qui est tard. Pas de bons souvenirs de cet apprentissage. C'est-à-dire le goût est venu ensuite. Et puis aujourd'hui, il y a ce sentiment de faire ce qu'on faisait il y a plus de 50 ans. J'allais dire de rester indéfiniment jeune, ça rassure.
Et c'est pour ça peut-être que c'est émouvant et si beau à l'âge adulte, parce qu'on se souvient que ça a été dur au début.
Alors parfois il y a des sensations qui reviennent. Vous voyez, par exemple, un exemple, vous allez prendre de l'eau dans le nez, vous allez faire un virage culbute, vous savez pas pourquoi, vous prenez de l'eau dans le nez, et là ça vous renvoie à 50 et quelques années plus tôt, parce que on en prenait beaucoup quand on commençait à nager, de l'eau, ces espèces d'accrotés qui vous arrivent dans le nez. Alors surtout que ça arrive pas très souvent, mais là ça arrive et c'est voilà.
Voilà, le chlore dans les narines, c'est
notre madeleine à l'envers.
De madeleine. Oui. I nearly
du premier album de l'Australienne Maple Glider, programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. Nous approchons de la fin de cette émission. Les trois invités de L'été comme jamais nous ont raconté leurs sensations de nage. J'ai à présent une dernière question à vous poser, question rituelle. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis récemment ou il y a très longtemps, un sujet parmi d'autres sans doute. On commence avec vous, Malia Metella.
Mais... Alors moi, j'ai changé d'avis, c'est un sujet d'actu, c'est sur le vaccin. Voilà, j'étais contre, comme beaucoup qui doivent nous écouter en ce moment, et j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis pour mes proches, pour moi et toutes les personnes que j'aime. Donc, je me suis fait vacciner. Voilà.
Même question. Oui, allez-y.
C'était aujourd'hui mon sujet où j'ai changé d'avis et j'hésite pas à en faire parler parce que je pense que c'est un très très gros sujet d'actualité.
Même question, Chantal Thomas. Sur quoi avez-vous changé d'avis?
Alors, pour rester dans l'eau, j'ai changé d'avis par rapport aux rivières.
Ah.
Je n'aimais pas nager dans les rivières, je n'aimais pas surtout l'effet trouble de l'eau et j'ai accepté ça, de me jeter
ça fait peur,
sans la transparence. J'ai accepté l'inconnu d'une certaine façon.
Même question, Gilles Bornet.
Alors je vais être plus badin, plus léger. En fait, j'ai changé d'avis. Samedi, je suis allé au cinéma parce que je pouvais pas rester chez moi. Bref, il y a des travaux, j'avais pas mon canapé, enfin une histoire. Et donc je suis allé au cinéma, j'y vais jamais, et je voulais voir un film drôle pour me vider la tête, comme certains se vident la tête avec la natation. Et quand je suis arrivé dans la file d'attente, j'ai vu quelqu'un manger du pop-corn, j'en ai entendu un autre qui ricanait, j'ai dit ça sera pas possible. Donc j'ai changé de cinéma.
Vous n'êtes pas puriste uniquement à la piscine, j'ai l'impression.
Ah non, vous savez, les gens qui rigolent pendant tout un film, ah non, c'est pas possible, et puis qui mangent du pop-corn.
Bon, alors
j'ai changé de cinéma et je suis allé voir un film sinistre, mais que je vous conseille quand même, et qui s'appelle « Un espion ordinaire ».
Très bien, c'est noté. Merci beaucoup à tous les trois. Il me reste à vous souhaiter bon courage, Malia Metella, pour votre défi Titi Caca. Ce sera en novembre prochain au Pérou et vous serez prête, évidemment.
Oui.
Le nageur et ses démons de Gilles Bornet aux éditions François Bourin. Souvenir de la marée basse, Chantal Thomas, c'est à lire au seuil. Et puis cette invitation à vivre l'instant, cette fresque d'instant insaisissable et lumineux, de sable et de neige, le dernier livre de Chantal Thomas, au Mercure de France. Un grand merci à vous trois, merci beaucoup. Et bonne journée.
Merci, au revoir.
Merci.
À bientôt à sur France Inter. Filez donc vous baigner.
Au revoir.
Tous les trois, au revoir.
Au revoir.
Voici notre philosophe à la plage à présent. Bonjour Charles Pépin.
Bonjour.
Sous le soleil de Platon, ce sera dans un instant. Quel est votre invité aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, c'est Guillaume Gallienne, société à la Comédie Française, qui a une double actualité. Kaamelott au cinéma, qui sort aujourd'hui, et puis Le Bourgeois Gentilhomme à la Comédie Française. Et ce sera l'occasion idéale de parler de l'identité. Est-ce qu'on est vraiment identique à nous-mêmes? Est-ce que l'identité n'est pas qu'un leurre, une illusion?
Un peu de philo, ça peut pas faire de mal.